Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Que s'est-il passé au niveau international entre 1989 et 2009 ? Pour Thierry de Montbrial, 20 ans qui bouleversèrent le monde, 20 ans de transition, au point de faire terminer le 20e siècle en 1989 et de faire commencer le 21e en 2008 et non en 2000. Une périodisation qui souligne l'importance à ses yeux de la mutation du système international. Thierry de Montbrial, bonjour.
Bonjour.
Depuis 1992, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous dirigez l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, depuis 1979, ainsi que la publication annuelle de cet institut, la revue Ramsès. Vous avez enseigné jusqu'à l'an dernier au Conservatoire des arts et métiers, où vous occupiez la chaire d'économie appliquée et relations internationales. Vous êtes venu nous présenter l'un de vos derniers livres, 20 ans qui bouleversèrent le monde de Berlin à Pékin, publié chez Duno en août 2008. Ce livre est en fait la réunion de plusieurs chapitres écrits chaque été entre 1989 et 2009, une pratique qui vous est familière puisque chacun de ces chapitres constitue les grandes introductions de la revue annuelle Ramsès que vous signez chaque année sous la forme et le nom de « Perspective ». Pour vous, ces 20 ans sont une période de transition. Vous parlez du passage d'un monde bipolaire qui s'achève à partir de 1989 à un monde multipolaire, hétérogène et global, selon vos propos. Dans ce livre, on est à la fois dans l'histoire et dans le temps présent. Vous avez voulu avoir une démarche historique nouvelle en faisant de l'histoire immédiate des relations internationales, en livrant des analyses nourries de votre expérience dans le domaine de la géopolitique. Thierry de Montbrial, vous qui aimez raisonner sur l'incertitude, hein, c'est ainsi que vous définissez l'art de la prospective. Le G20 d'avril 2009 vous paraît-il justement le G20 historique dont toute la presse parle aujourd'hui ? Nous sommes le 3 avril 2009.
Oui, alors tout d'abord, vous dites que j'aime bien raisonner sur l'incertitude parce que c'est l'art de la prospective. En fait, c'est l'action, c'est l'art de l'action, c'est l'art de la stratégie parce que par définition, quand on agit, on ne sait pas exactement l'évolution du contexte dans lequel on opère, les conséquences des décisions que l'on prend. On ne connaît pas exactement les décisions que vont prendre les partenaires, adversaires, etc. Donc l'incertitude, c'est beaucoup plus que l'affaire de la prospective. Alors, en effet, je crois que les découpages chronologiques, etc., auxquels se livrent les historiens, sont affaires de jugement et qui interviennent longtemps après, hein, parce qu'il faut avoir un certain recul pour dire exactement, par exemple, parler de la guerre de 30 ans, les contemporains ne parlaient pas de guerre de 30 ans. Je ne suis pas sûr qu'en 1648, on disait que la guerre de 30 ans s'était achevée. Et après la Première Guerre mondiale, on n'a pas dit la Première Guerre mondiale s'est terminée pour la bonne raison qu'il n'y avait pas eu la Seconde. Et on parlait de la Grande Guerre, et ainsi de suite. Pour ma part, je pense que le XXe siècle, sur le plan politique naturellement, le XXe siècle aura été un siècle court. Entre 1918-1919, c'est-à-dire le lendemain justement de la Première Guerre mondiale, et ce XXe siècle s'est achevé pour moi en 1989, très clairement, c'est-à-dire avec le début de la chute du système soviétique, symboliquement la chute du mur de Berlin. Donc siècle court, et j'ai écrit à l'époque d'ailleurs, j'ai immédiatement ressenti les choses comme ça, j'ai immédiatement eu la conviction que 1989 était une date de grandes séparations, qu'il y avait un avant et un après. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que c'est très exactement deux siècles après 1789. Et j'ai toujours pensé, à la dernière page des Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, qui explique dans son style magnifique, enfin en tout cas parfois magnifique, qu'il a vécu au fond la moitié de sa vie avant et la moitié de sa vie après cet événement extraordinaire. Alors, sommes-nous pour autant rentrés dans le 21e siècle immédiatement, c'est-à-dire 1991 ? Pourquoi 91 ? Parce que 89, c'est la chute, c'est le début de la chute des systèmes communistes dans ce qu'on appelait à ce moment-là l'Europe de l'Est, c'est-à-dire la périphérie de l'Empire soviétique. Et le le 24 décembre 1991, très précisément, c'est la fin de l'Union soviétique elle-même. Donc le cycle est accompli, si on peut dire. Alors, à partir de là, on est entré dans une période qui était extrêmement difficile à qualifier, c'est-à-dire une période qui était plutôt une période de désordre, de restructuration, de fantasmes, d'espoir, etc., etc. Et de fait, j'ai eu l'an dernier, en 2008, en examinant les faits année après année, puisque tous les ans, comme vous l'avez rappelé, je fais un bilan assez structuré de l'année écoulée, tout cela tous les ans au même moment, au mois de juillet, et en effet tous les chapitres de ce livre, chaque chapitre correspond exactement à une année, c'est une sorte donc d'histoire vécue, avec d'ailleurs le reflet des incertitudes de chaque période, c'est ça peut-être qui fait l'originalité de l'exercice. Et l'an dernier, j'ai eu l'intime conviction, de même qu'en 1989, et comme bien d'autres, vous l'avez dit, j'ai pensé qu'il y avait la fin de quelque chose, très important, je pense que 2008 est la fin, en effet, de cette période de transition, d'hésitation.
En 2007, pour vous déjà, c'était quasiment...
Alors, il y avait un certain nombre de choses qui commençaient à apparaître, oui.
Parce que vous aviez déjà établi ce...
Absolument. C'est-à-dire le côté, par exemple, le caractère multipolaire, on y reviendra peut-être, d'ailleurs, multipolaire, ce que j'appelle multipolaire hétérogène et global. Simplement, ce qui s'est passé en 2007-2008, et d'ailleurs qui a explosé littéralement, même après... la fin de l'exercice de rédaction pour ce qui me concerne, mais qui ne fait que renforcer le diagnostic, c'est cette fantastique crise économique, crise financière d'ailleurs et économique. Et je pense que cette crise est à la fois la fin de la période de transition et le début de l'ère nouvelle qui va précipiter la cristallisation de ce nouveau système que je présentais.
Est-ce qu'aujourd'hui, en 2009, vous vous poseriez la question qui était la vôtre en 1993 et qu'on trouve dans votre livre « 20 ans qui bouleversèrent le monde de Berlin à Pékin » ? Je cite cette question, c'était en 1993 « Sommes-nous en 1930 ? » Alors évidemment, c'était une période bien noire avec le recul du temps. C'est la période de l'extension de la crise économique de 1929, la montée des fascismes, la faiblesse des démocraties, le tout ayant conduit à un nouveau cataclysme mondial. Alors est-ce qu'aujourd'hui, vous poseriez cette question ?
Alors en 1993, je répondais catégoriquement non, bien entendu. Alors ce qui est intéressant peut-être pour nos auditeurs...
Est-ce qu'on peut reposer cette question ?
Oui, mais alors ce qui est intéressant pour nos auditeurs, c'est qu'ils n'ont peut-être pas tous en tête pourquoi 1993 ? Bon. Et ce qu'il faut leur rappeler, c'est qu'après la chute de l'Union soviétique, il y a d'abord eu une bulle d'euphorie, avec, qui est bien symbolisée d'ailleurs par la thèse de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire, une interprétation hegélienne.
Jamais.
Et d'ailleurs, je connais bien l'auteur, et je lui rappelais il y a quelques semaines, je lui demandais s'il reconnaissait ses erreurs de diagnostic, ce qu'il a fait bien volontiers. Mais je lui ai tout de même fait observer que c'était grâce à ça qu'il avait accédé à la célébrité, parce que l'accession à la célébrité n'a rien à voir avec la vérité. Je crois que c'est aussi quelque chose d'intéressant à noter au passage. Francis Fukuyama, qui est d'ailleurs un homme tout à fait intelligent et attachant, n'aurait sûrement pas la célébrité qu'il a s'il n'avait pas produit ce livre, qui était d'ailleurs la transformation d'un article qui s'appelle « La End of History », la fin de l'histoire, donc en paraphrasant bien sûr Hegel, et qui était fondé sur une vision totalement naïve, à savoir qu'avec la chute du système soviétique, le monde entier allait très rapidement se retrouver à la fois avec la triomphe de la démocratie sur le plan politique et de l'économie de marché sur le plan économique, avec la conjugaison des deux, allait amener la paix universelle et la prospérité générale.
Bon. On était dans la fin de la guerre froide.
Alors, ça, c'était le mythe. Voilà. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, ça a commencé à cafouiller en Yougoslavie, puis il y a eu la décomposition de la Yougoslavie, et en effet, la tragédie yougoslave a fait presque passer le balancier en sens inverse, et c'est dans ce contexte-là, effectivement, que certains agitaient le spectre des années 30, qui très vite, d'ailleurs, a été écarté. Parce que le drame yougoslave, bien sûr, a duré, mais il est resté très confiné. Et sur le plan économique, les années 90 ont au contraire été des années d'une très très grande prospérité. C'est-à-dire que, au fond, la bulle, finalement, la bulle le Fukuyama ou hegélienne est restée là. Alors aujourd'hui, évidemment, la situation est tout à fait différente parce que là, je crois que tous les économistes en sont d'accord. La crise qui a démarré avec l'affaire des subprimes, mot un peu intraduisible, en 2007 et a pris à partir de l'an dernier, et spécialement d'ailleurs à partir de du début de l'automne de l'an dernier, une dimension sans précédent depuis la Grande Dépression.
C'était quand même aussi là, annoncé, peut-être pas dans son ampleur, mais...
Si vous voulez, je me méfie de ça parce que...
C'est difficile de l'appréhender justement, mais quand même...
Enfin, annoncé, je vais vous dire, c'est comme la chute de l'Union soviétique. Le nombre de gens qui m'expliquent après coup que l'événement était éminemment prévisible...
Non, je ne dis pas prévisible, je dis que même vous, en juillet 2007, vous parlez de...
Oui, sur la gravité de la situation.
Sur la gravité, absolument. Sur l'ampleur. Par contre, le problème était constaté.
Tout à fait. Le problème était constaté. Et d'ailleurs, même bien avant, il y a beaucoup d'esprits lucides qui étaient plutôt inquiets sur les débordements du système financier et un certain laxisme. Très bien incarné d'ailleurs par une personnalité comme Alan Greenspan, qui a été pendant 17 ou 18 ans d'ailleurs le patron de... un peu euphorique, de la réserve fédérale américaine, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, et qui, par son optimisme naïf et dans le fonctionnement de l'économie libérale, a probablement contribué aussi à tous les excès du système financier qui ont finalement produit ce qu'on appelle donc ces bulles qui ont éclaté, qui ont commencé à éclater avec le système des subprimes, une variété de marchés hypothécaires, et qui ensuite s'est répandu à l'ensemble de l'économie. Mais la manière dont ça s'est répandu à l'ensemble de l'économie, ça a pris des proportions, ce qui était beaucoup plus grave que ce que la plupart des gens avaient envisagé.
L'accord du sommet du G20 d'avril 2009, qui a été pris hier à Londres, prévoit de doter le FMI de 1 000 milliards de dollars pour répondre à la récession actuelle. Thierry de Montbrial, avec ses moyens supplémentaires, le FMI est-il dorénavant en mesure d'assurer une mission de régulation réelle à l'échelle globale ?
L'affaire du G20, c'est d'abord une opération psychologique. Car depuis un certain nombre de mois, il y a des mesures qui ont été prises, elles sont dans un sens, dans d'autres sens, il y a eu des erreurs qui ont été commises, par exemple la faillite de la banque Lehman Brothers. Et dans le monde, il y a eu un sentiment de défiance vis-à-vis des autorités publiques responsables de la gouvernance, comme on dit aujourd'hui, de la gouvernance économique. Alors, ce qui était important dans cette affaire du G20, d'abord, le G20 est un groupe qui est assez pertinent parce qu'il représente plus de 80% de l'économie mondiale, en gros. Et c'est un groupe qui est évidemment pas un petit groupe, c'est pas très facile de prendre des décisions à 20. Mais enfin, c'est un groupe qui a une certaine signification, une certaine pertinence, dans laquelle il y a à la fois l'ancien monde et le nouveau monde.
Voilà, c'est sa particularité.
C'est une assez bonne structure. Voilà.
Alors, propice au dialogue.
Propice au dialogue. Alors maintenant, il faut bien voir que dans ce genre d'exercice, les 90%, 98% même des textes et communiqués sont agréés avant. Alors ce serait impossible d'obtenir des résultats sur des questions aussi complexes pendant quelques heures. Mais ce qui était vraiment important dans cette réunion du G20, c'était que les participants affichent une confiance dans l'avenir, affichent une cohérence et leur adhésion à une même voix. Alors ça, c'est très largement psychologique, il faut voir. Parce que si vous regardez en détail ce qui s'est passé, vous verrez que sur les détails, les divergences qu'il y avait avant existent toujours autant après. Quand on écoute, par exemple, les discours du président Sarkozy et du président Obama, chacun de ces deux discours mettait l'accent sur les questions qui, du point de vue de chacun d'eux, étaient les plus importantes. Je n'ai pas noté énormément de différences entre ce qu'ils avaient dit avant et ce qu'ils ont dit après. Je note d'ailleurs que le président Obama n'a même pas mentionné la France une seule fois dans son discours, ni d'ailleurs dans ses réponses aux questions des journalistes. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est que ceci a été perçu
comme une victoire politique.
Une victoire, parce que tout le monde avait intérêt à afficher une bonne entente, quitte à ce que, sur un certain nombre de points, les divergences subsistent. À quoi j'ajouterais que quand même, au fil des mois, alors sur le plan technique, de la technique économique et financière, sur le fil des mois, un certain nombre de vrais accords se sont faits sur les mesures à prendre. Bon, il y a eu des erreurs qui ont été commises, comme je le rappelais avant, mais un certain nombre d'accords ont été commises. Et je pense que les mesures qui ont été adoptées sur le plan technique sont très largement inspiré de ce consensus qui s'est établi au fil des mois et qu'on trouve par exemple bien exprimé dans le rapport Larosière. Et je salue au passage notre confrère de l'Académie des sciences morales et politiques, Jacques de Larosière, personnalité éminente s'il en est dans le domaine de la finance internationale, Donc en effet, il y a une certaine crédibilité. Et je pense que ce G20 a pris aussi une mesure qui mérite d'être saluée, qui est tout simplement de se réunir à nouveau au mois de septembre dans la foulée de la réunion annuelle du Fonds monétaire international pour faire le point cette fois-ci du degré d'avancement, de réalisation des mesures prises. Par conséquent, on va en effet plus loin
de ce plan de régulation
général de mesures.
Mais là, c'est l'ordre du calendrier.
Oui, mais
c'est déjà ça.
Oui, mais c'est plus important que ça, parce que c'est l'ordre du calendrier, mais on se donne un rendez-vous très précis dans quelques mois pour voir où on en est dans l'exécution des décisions prises. Ce qui est important, parce que ça veut dire qu'il y aura un vrai suivi. Trop souvent dans les réunions internationales...
Un carnet de bord...
Absolument, il y a un carnet, une feuille de route, comme on dit aujourd'hui.
Feuille de route, voilà.
Canal Académie.
Est-ce que ces principes de régulation qui ont été, sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord, dans les conclusions du G20, il y a plus de régulation souhaitée? Et est-ce que vous pensez que le FMI, avec les moyens qui sont les siens maintenant, va pouvoir jouer ce rôle?
Le FMI n'est qu'une des instances en cause. Hein. Le FMI, là, on triple ses capacités
tout d'un
financières.
Coup, voilà, on en fait un acteur différent sur le plan
donc
des relations internationales quand même.
Absolument, on en fait un acteur quantitativement différent, et d'ailleurs il est possible qu'on aille encore au-delà. Cela dit, il y a bien d'autres instances, on va appeler ça de surveillance ou d'action, qui permettront d'avoir une meilleure régulation du système financier international sans pour autant tomber dans le travers inverse qui serait de revenir à un excès de régulation, parce qu'on a été sûrement dans un excès de dérégulation dans la période de transition, mais le risque c'est qu'on pousse le balancier en sens inverse, ce qui est d'ailleurs une partie de la petite querelle entre le monde anglo-saxon, États-Unis et Grande-Bretagne d'un côté, et l'Europe continentale, symbolisée par l'entente actuelle Sarkozy-Merkel. Alors, en tout cas, dans ce qui est proposé là, je crois qu'on a un équilibre relativement raisonnable. Ce qu'il faut voir cependant, c'est que derrière ces mesures, et là je reviens au FMI, à l'augmentation de ses ressources, derrière ces mesures, il va y avoir nécessairement une redistribution aussi du pouvoir entre les instances, entre les États qui participent à la régulation internationale, à la gouvernance économique internationale, et en particulier au profit de la Chine, mais également
l'Inde
à moindre degré. Je crois qu'il ne faut pas mettre l'Inde et la Chine sur le même plan. La Chine est véritablement se pose en puissance mondiale. L'Inde, c'est la question se pose encore. D'ailleurs, dans mon dernier chapitre, c'est une question que je pose sans véritablement la trancher, parce que je crois que c'est encore un petit peu tôt. La Chine a manifestement des ambitions qui sont à l'échelle mondiale. La Chine va bientôt être la seconde puissance, va bientôt doubler le Japon, sera bientôt la seconde puissance économique mondiale. Mais la Chine manifeste également une volonté de puissance qui se manifeste, qui s'exerce dans le domaine, par exemple, militaire, de la sécurité. Tout ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Enfin, toujours est-il que ces pays vont demander d'avoir une part plus grande dans les systèmes de décision. Et là, ça va certainement être assez délicat.
Le G20, ça vous paraît la bonne structure?
Alors, c'est sûrement pas la structure unique. Hein. Je pense que la gouvernance mondiale...
Mais actuellement, la réunion des partenaires qui s'y trouvent...
Je pense que, comme en effet, on ne peut pas faire l'hypothèse que tous les citoyens de la planète sont des grands experts en gouvernance mondiale, que... De même qu'on ne peut pas demander aux citoyens européens d'être des spécialistes de droit constitutionnel. Je fais allusion, bien sûr, à la question de la ratification manquée du traité, projet de constitution européenne. Je pense qu'il faut qu'il y ait des images relativement simples. Et j'en reviens donc à l'aspect psychologique. Et les aspects psychologiques sont extrêmement importants puisqu'il s'agit de retour à la confiance. Et de ce point de vue-là, je pense que le G20 est en effet une bonne structure, puisque 20, c'est un chiffre élevé, mais tout de même pas trop élevé. Et comme on le disait tout à l'heure, ça représente l'essentiel de la force de frappe économique mondiale.
Est-ce que pour vous, ça marque le grand retour de la politique dans les décisions justement prises là? Est-ce que quand même, il y a aussi une... Vous parliez d'une part psychologique, mais il y a aussi des leaders politiques, là, le président Obama ou même le président Sarkozy ou Angela Merkel, qui ont réussi aussi à s'imposer. Là, il y a aussi une affaire d'homme. Dans votre livre, vous parliez de 1989, vous évoquez la figure dans ces années-là de Mikhail Gorbatchev, et puis, évidemment, de Poutine, comment il prend la relève. Et au fil des ans, il y a de nouveaux leaders qui, quand même, vont imposer leur marque. Malgré les aspects techniques, malgré les Sherpas, malgré les accords conclus avant, petite part quand même au niveau de la politique qui s'impose.
Absolument. Alors, il faut bien s'entendre sur ce qu'on appelle
la politique
la politique avec un petit P, avec un grand P. Alors, plusieurs aspects en effet à cette question. Sur le plan des leaders, il est certain qu'il y a quelques personnalités fortes. La personnalité de Nicolas Sarkozy est très forte, nous le savons tous, et en matière de politique internationale, elle a montré cette personnalité et tout son dynamisme, particulièrement dans le second semestre de l'année précédente, puisqu'il y avait une conjoncture qui était particulièrement favorable, puisque la France avait la présidence de l'Union européenne, et en même temps, on était à la fin de la présidence américaine, donc... George W. Bush était, comme on dit en anglais, il y a un très, très joli mot là-dessus, un lame duck. Ça veut dire qu'il était... je ne sais même pas comment le traduire en français. C'est pas, disons que son avenir était derrière lui. Et en plus, il était l'objet de l'opprobre quasi général, y compris dans son pays. Et donc, Sarkozy a très largement tiré parti de cette situation. Aujourd'hui, évidemment, la vedette, c'est Obama, c'est tout à fait clair. Et du reste, c'était son premier voyage en Europe, là. C'est à l'occasion du G20 et du sommet de l'Alliance Atlantique. Et Obama est évidemment une personnalité également très forte. Il a l'avantage également de la jeunesse. C'est un immense orateur. Il a beaucoup de charme. On attend beaucoup d'Obama. Donc ces personnalités, vous avez rappelé également la personnalité d'Angela Merkel, qui est en effet une très grande personnalité et qui est très respectée. Moi, je me souviens, la première fois que je l'ai rencontrée, quand elle était encore relativement obscure, exerçant des responsabilités relativement moyennes dans le cadre de la CDU, après, en provenant de l'Allemagne de l'Est. En fait, tout ça, c'était une saga tout à fait fascinante. Donc, vous avez tout à fait raison, mais il y a également d'autres personnalités importantes. Le président Hu Jintao, le président chinois, n'est pas rien. Dmitri Medvedev est un homme... très remarquable, etc., etc. Donc je crois qu'il y a dans le monde quelques grands leaders. Alors, quand on parle du retour de la politique, je crois qu'il faut regarder ça dans un sens beaucoup plus profond. Et ce sens plus profond, c'est que ça nous ramène, n'est-ce pas, à la période de transition et un peu à l'illusion libérale. Parce que le libéralisme, moi qui vous parle, je suis profondément libéral, mais j'ai toujours cru au rôle des États. Je me situe dans la tradition d'un homme comme notre... très regretté Raymond Barre, également membre de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre. Mais les États sont très importants et on a eu tendance, en effet, à l'oublier pendant cette période de transition. Alors, le retour des États, c'est le retour aussi aux responsabilités des États. C'est l'idée qu'il y a les biens privés et les biens publics. C'est l'idée qui m'est personnellement très chère que la politique internationale, dans ce qu'elle a de plus noble et de plus beau, c'est une affaire fondamentalement de coordination de biens publics. Et donc, les instances, il faut retrouver, réformer les instances pertinentes pour assurer une gouvernance de l'économie mondiale et d'ailleurs de la politique aussi, les deux sont liés, qui soit à la fois légitime et efficace. Mais tout ça suppose une énorme reconstruction et le G20 n'assure pas cette reconstruction du jour au lendemain. Je crois que pendant plusieurs années, nous allons avoir à travailler à ce chantier de la reconstruction d'un mode de gouvernance mondiale, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, et en trouvant un bon équilibre entre
social,
les États et les autres acteurs. Et sur le plan social, c'est évidemment très important, parce que le grand risque aujourd'hui... Moi, personnellement, voyez-vous, je pense qu'on peut commencer à voir le bout du tunnel de la crise financière et économique. Je ne dis pas qu'on en sort tout de suite, loin de là, mais je pense qu'on peut... Le pire me paraît derrière nous, dans la mesure où je crois qu'on est enfin maintenant, qu'on a maintenant une vision relativement claire de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire également. Et donc, on est sur de bons rails, je le crois profondément. Pour autant, ça ne veut pas dire que la crise est terminée, loin de là. Par exemple, en Europe, je crois qu'on va assister pendant un certain nombre de mois à un accroissement des difficultés, du chômage, etc. Donc, en effet, nous avons devant nous un gigantesque problème social.
Ah oui, gigantesque, oui.
Et comme il y a des pays qui réagissent plus ou moins bien, n'est-ce pas, face aux grandes crises économiques, je pense qu'en France, avec la tradition un petit peu révolutionnaire française, il faut s'attendre à des périodes difficiles. Sur le plan social, je dis bien.
Est-ce que vous pensez que vous êtes trompé sur ces 20 ans ? Quand vous-même, vous avez réuni tous ces... Là, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de points qui, au contraire, sont justes. Mais sur le Proche-Orient, là, c'est un problème récurrent depuis le début du 19e siècle, pendant la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas de résolution des conflits au Proche-Orient parce que la question du conflit israélo-arabe et israélo-palestinien n'est pas réglée. Et ça revient évidemment d'année en année, y compris dans vos perspectives. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce que ça reste dans cet état de conflit auquel on ne peut pas apporter de réponse?
Alors,
ce n'est pas une histoire de se tromper ou
non,
pas.
Non,
vous pointez toujours, et c'est important, et vous avez tout à fait raison, et en particulier, vous parlez d'islam politique, on va dire justement, pas de façon, au sens où Olivier Roy ou de certains spécialistes en parlent, mais dans un sens plus large.
C'est
pourquoi
clair.
est-ce que ce sujet n'arrive pas à être traité ?
Tout à fait clair. Alors, tout d'abord, sur la question des se tromper, se pas se tromper, etc., ça mérite deux mots, parce que je pense que quand on écrit, et c'est tout le défi que je me suis fixé à moi-même, c'est d'écrire tous les ans à la même époque, et dans un même format, c'est-à-dire à peu près le même nombre de pages, etc., de faire un tour du monde complet. Bon, alors, je pense que l'intérêt de l'exercice, en particulier quand on le lit aujourd'hui...
C'est un outil précieux pour le lecteur.
Oui, mais l'intérêt, je pense, l'intérêt méthodologique, c'est justement aussi de reconstituer l'incertitude, si vous voulez. Par exemple, je vais vous donner un exemple, on n'a pas le temps d'en parler parce qu'on ne peut pas parler de tout. Mais aujourd'hui encore, au moment où nous parlons, je pense que l'histoire aurait pu bifurquer tout à fait autrement en 1989-91 et l'Union soviétique pourrait parfaitement exister encore. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler aussi avec Gorbatchev, par exemple, lui-même. Gorbatchev a pris un certain nombre de décisions qu'il aurait pu ne pas prendre. Et je pourrais vous parler longuement de ce genre de choses. C'est un peu l'histoire du nez de Cléopâtre. Il y a toute une discussion qui est très intéressante et que nous n'avons pas menée aujourd'hui. C'est que veut dire se tromper ou avoir raison dans ce genre, d'exercice. Alors, je pense qu'en l'occurrence, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne analyse.
Et vous parliez des erreurs de Fukuyama, qu'il l'avait reconnu, enfin des
parce
erreurs...
Justement.
C'est important,
justement,
c'est pour ça.
Non mais justement, là nous sommes en effet dans le domaine de l'erreur. Annoncer l'avènement d'un monde idyllique dans les années qui viennent, etc., la fin de la guerre, le triomphe de la démocratie, etc., je pense en mon âme et conscience d'avoir jamais commis ce genre d'erreur. Le prix, naturellement, c'est que quand on est modéré, équilibré, etc., on retient moins l'attention, notamment des médias. Parce que, vous voyez, là, je parlais tout à l'heure de célébrité. Une bonne façon d'être célèbre, c'est de faire des déclarations tonitruantes sur, quitte à ce que ce soit aux dépens du plus élémentaire bon sens. Alors, cela dit, là aussi, dans ce livre, j'ai toujours cherché à mettre l'accent sur les politiques, à discuter les politiques, celles qu'on fait, celles qu'on ne fait pas, ce qui nous amène au Moyen-Orient. Alors, je crois que le problème, d'abord, j'ai toujours pensé, et je pense toujours, que cette question du Moyen-Orient est absolument fondamentale, et plus précisément, la question du problème, du règlement de la question israélo-palestinienne, et plus généralement israélo-arabe, parce que ça n'est pas terminé. Il n'y a pas de paix, par exemple, entre Israël et la Syrie, etc. Mais plus loin, parce que l'Iran n'est pas arabe, comme chacun sait. Bon, alors, pourquoi, c'est ça la question que vous me posez, pourquoi est-ce qu'on n'y est pas arrivé ? Eh bien, il faut voir qu'il n'y a pas eu, les forces politiques en jeu sont allées systématiquement en sens inverse. Enfin, il y a eu un moment où on a failli le faire. Et ce moment, ça a été justement dans les années 90.
J'allais vous demander si c'était justement, pendant ces 20 ans qui bouleversèrent le monde, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette occasion manquée de 91?
Alors, cette occasion manquée de 91, vous savez, elle est extrêmement simple. Parce qu'il faut, là aussi, pour la clarté pour nos auditeurs, il faut voir qu'après la chute de l'Union soviétique, donc la fin du monde bipolaire, il y a toute une série de possibilités qui se sont ouvertes. Et certaines, dans certains cas, ça a tourné très bien. Par exemple, en Afrique du Sud, c'était la fin de l'apartheid.
Bien sûr, et ça aurait pu tourner, guerre civile.
Et ça aurait pu tourner de la même manière en ce qui concerne le conflit israélo-arabe. Et on a été assez près de ça, puisqu'il y a eu les processus, Madrid, Oslo, etc. Et malheureusement, le train, et là on retrouve aussi sur le nez de Cléopâtre, tout a déraillé avec l'assassinat d'Itchak Rabin. Et il ne faut pas oublier ça, c'est en 1995. Et ça a été
d'ailleurs,
une tragédie.
D'ailleurs, dans le livre, là, 95, c'est une date charnière pour vous. Hein.
Je pense que 95 est en effet une date tout à fait importante. Et puis, là, il y a eu les désillusions, il y a la Yougoslavie, il y a eu... mais en ce qui concerne le Moyen-Orient, je crois que l'assassinat de Rabin, c'est en effet un phénomène très important. Et depuis lors, les gouvernements israéliens, fondamentalement, les gouvernements israéliens successifs, fondamentalement, n'ont pas voulu aller dans le sens de la paix. Et les gouvernements américains n'ont pas mis la pression nécessaire sur le dossier. Il faut bien voir que pour Clinton, comme pour son successeur George W. Bush, ils ont commencé à s'intéresser à la question beaucoup trop tard, c'est-à-dire à la fin de leur second mandat. Clinton a essayé de traiter le dossier à la fin de son second mandat, je voudrais
tout
aussi rappeler.
Tout à la fin, à l'extrême fin.
À l'extrême fin, et en plus, il était pris, le malheureux, si j'ose dire, par cette déplorable, minable affaire Levinsky. Et il faut voir, l'affaire Levinsky, on peut sourire, les Français aiment bien ce genre d'histoire croustillante, mais en dehors de l'aspect anecdotique, si vous voulez, un président des États-Unis qui doit passer 30 ou 40% de son temps sur... une affaire comme celle-là, c'est absolument déplorable. Alors, toujours est-il que pour traiter un dossier aussi complexe que le dossier israélo-palestinien, il faut pas être contraint par le temps, par une limite, la fin du mandat, etc. Donc, entre les gouvernements israéliens qui n'ont jamais voulu traiter sérieusement cette affaire, finalement,
oui,
il faut voir aussi qu'il y a un système constitutionnel en Israël qui est absolument terrible. Par exemple, vous voyez bien le résultat des dernières élections, le retour de Netanyahou, un gouvernement de coalition qui est tout à fait invraisemblable. Tout ceci n'est pas de bon augure. Et ça, c'est très largement lié au système constitutionnel, au système politique d'Israël. Donc, ce que je pense, c'est que pour réussir à régler cette affaire qui date maintenant de 60 ans, il faut voir tout de même, et qui empoisonne littéralement l'ensemble du Moyen-Orient et sans aucune
et
espèce de doute.
Et la Méditerranée,
et
qui
etc.
peut aussi alimenter l'islam politique.
Bien entendu,
Les choses se
lient. Et donc tous les comportements extrêmes. Et les comportements extrêmes, en plus, appellent des réponses extrêmes. Par conséquent, on est dans des cercles vicieux extrêmement, extrêmement graves. Alors, pour se sortir de ça, il faudrait, pour moi c'est très simple, hein, il faudrait que le président des États-Unis, en l'occurrence Obama, prenne le taureau par les cornes et fasse le nécessaire pour imposer, je dis bien pour imposer, un règlement régional.
Vous pensez que ce sera la politique américaine qui réussira ?
Ben,
plus que la politique européenne, elle est encore plus faible pour mener ce combat-là.
Je pense que l'Union européenne, hélas, n'est absolument pas en mesure de jouer un rôle moteur. Elle peut jouer un rôle annexe important, mais elle ne peut pas jouer un rôle moteur, parce que le degré d'avancement de l'unification européenne est tout simplement insuffisant.
Surtout sur ces questions de politique commune, etc.
Quand il s'agit de dossiers aussi durs que celui-là, je pense que l'Union européenne ne peut jouer qu'un rôle d'appoint, un rôle complémentaire.
Donc le président Obama pourrait être...
je ne suis pas sûr qu'il le fera, si vous voulez. Et alors, en revanche, je crois que sur beaucoup de dossiers, les débuts de la présidence Obama sur le plan de la politique étrangère me paraissent tout à fait prometteurs.
Oui, par exemple
Par exemple, sa ouverture diplomatique vis-à-vis de la Chine, mais surtout vis-à-vis de la Russie, où les choses étaient de plus mal engagées, mais également vis-à-vis de l'Iran. C'est un point tout à fait fondamental. Et d'ailleurs, dans mon livre, je réclame ce genre de choses, ce qui est en train enfin de se réaliser. Mais est-ce qu'il ira avec Hillary Clinton, est-ce qu'il ira jusqu'à prendre le taureau par les cornes sur le dossier israélo-palestinien et israélo-arabe, plus généralement, je n'en suis pas tout à fait sûr.
D'accord, donc on voit que trouver des stratégies politiques communes, même avec un bon leader, c'est encore dans les incertitudes, mais on suppose, d'après ce que vous dites, que c'est possible. Voilà,
c'est possible, mais il ne faudrait pas qu'il traîne trop.
Voilà, hein, il y a une parce question de rapidité, dans ce... d'urgence.
Oui, parce que
son mandat est court.
Encore une fois, c'est ça, il y a une fenêtre d'opportunité qui peut se refermer après. Et je suis absolument convaincu que si on laisse encore cet épouvantable conflit traîner et se développer, il n'en ressortira que du mauvais pour l'ensemble du monde.
Bien, donc le monde est maintenant hétérogène, global et multipolaire. C'est votre grande...
Oui, enfin, dans
votre
l'ordre multipolaire, hétérogène et global. Alors, hétérogène, c'est un point important. Hein, ça veut dire multipolaire, tout le monde comprend plus ou moins ce que ça veut dire, mais un mot quand même sur hétérogène.
Sur hétérogène.
Hétérogène, c'est justement l'anti-Fukuyama, si vous voulez. Ça veut dire qu'il faut reconnaître que la plupart des États, en réalité, ne vont pas devenir du jour au lendemain des démocraties libérales, qu'on le veuille ou non. Et, pour autant, il ne faut pas entrer dans des guerres idéologiques avec eux. Et donc, il faut traiter avec eux, rechercher les points d'entente, et en particulier le maintien d'un système international ouvert, justement, dans lequel on puisse faire de la bonne économie et on puisse lutter contre quelques fléaux de base, comme par exemple le terrorisme ou des problèmes globaux comme le réchauffement planétaire. Tout ça suppose qu'on puisse coopérer entre des États, même des États qui ne partagent pas les mêmes valeurs politiques sur un plan fondamental. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et du point de vue occidental, l'une de mes idées clés, c'est qu'il ne faut pas constamment donner des leçons aux autres. Si vous voulez. Chez les Occidentaux, il y a une espèce de pulsion à vouloir constamment expliquer aux autres ce qu'ils doivent faire, le bien, le mal, etc.
Est-ce que ce n'est pas aussi un peu français, un peu plus
non,
français
non,
qu'américain ou
non,
c'est vraiment occidental.
C'est très américain et très français.
Il n'y a pas de différence entre les
Mais non,
différents
parce que vous
États
savez,
là-dessus.
Les Français, si,
quand
c'est
même.
Moins anglais et moins allemand, etc. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une tendance qui est tout simplement issue du siècle des Lumières, n'est-ce pas ? Tout ça, c'est l'héritage du XVIIIe siècle. C'est la France qui se pense phare de l'univers et les États-Unis ont repris ça. C'est d'ailleurs une des raisons de l'irritation mutuelle entre la France et les États-Unis, c'est que les Français ont souvent, même sans se le dire, l'impression que les Américains leur ont piqué la vedette, d'une certaine manière. Mais chez les Américains sont souvent, André Siegfried a écrit de très belles pages là-dessus, les Américains sont constamment des prédicateurs, les Anglais aussi un peu, c'est-à-dire constamment disent aux gens des leçons de morale, etc. Les Français, regardez, beaucoup d'intellectuels français passent leur temps à donner des leçons de morale aux autres. Bon, moi, mon attitude, c'est que il ne s'agit pas de donner des leçons de morale. D'ailleurs, très souvent, les gens, en plus, qui donnent des leçons de morale, ont eux-mêmes des comportements, disons, critiquables, pour ne pas dire plus. Moi, je pense qu'il faut le véritable leadership, le grand leadership, c'est par l'exemple. C'est ce qu'on fait qui est important. Alors, soyons exemplaires, les uns et les autres, que la France soit une très belle et grande démocratie, qu'elle cultive les droits de l'homme, etc., etc. Et il n'y aura pas besoin, à ce moment-là, de faire constamment des discours pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Et par ailleurs, coopérons avec les États tels qu'ils sont.
Très bien. Bon, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez ministre des Affaires étrangères ?
Ça dépendrait de avec qui serait président de la République et de l'entente. Parce que vous savez, le ministre des Affaires étrangères dans notre système français, il ne peut pas faire grand-chose. Je pense que pour que ça marche bien, il faut voir d'abord. Ça dépend de la manière dont le président de la République conçoit son rôle, de l'espace qu'il laisse au ministre des Affaires étrangères, du degré d'entente qu'il peut y avoir entre les personnalités. Donc, je pense qu'on ne peut pas répondre dans l'absolu cette question. De Gaulle, par exemple, et Couve de Murville, ça fonctionnait d'une certaine manière. Plus récemment, un homme comme Hubert Védrine a eu un espace un peu plus grand, tout simplement parce qu'il y avait une certaine neutralisation dans le contexte particulier de l'époque entre un président de la République relativement affaibli, qui était Jacques Chirac, et un Premier ministre relativement fort, qui était Lionel Jospin. Et le résultat, c'est qu'il a pu avoir davantage d'espace de manœuvre. Donc tout dépend du contexte.
Thierry de Montbrial, merci d'être venu nous présenter 20 ans qui bouleversèrent le monde de Berlin à Pékin, publié chez Dunod en août 2008.
Merci à vous.